importante. Moi, je vous dis, dans ma vie, on dirait que ça m'amène, j'utilisais l'expression « changement de paradigme ». Ça m'amène à considérer la vie d'une façon toute nouvelle et fraîche, tellement mieux. Tellement, tu sais, au lieu d'avoir une perspective qui nous pèse les épaules, qui nous met un fardeau, ben c'est libérant. Et je vous dis, il y a des gens qui m'ont dit, j'ai écouté, j'ai réécouté. Je pense que c'est le genre de vérité qu'il faut repasser, puis réécouter, méditer. Pas parce que mon message est quelque chose de spécial, c'est des vérités de la parole qui sont vraiment tellement précieuses et libératrices. Donc, dans Genèse 16, on va juste lire les deux premiers versets. On a lu le chapitre au complet, c'est l'histoire de la naissance d'Ismaël, tout ce qui va autour. On va juste lire les deux premiers versets, je vais prier, puis ensuite on va... Je vais vous partager des choses pour donner un peu suite à ce qu'on a vu la semaine dernière, mais aller plus loin, amener aussi un élément important par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Seigneur, certainement on peut lire des passages comme ça dans les Écritures puis être prompt à jeter la pierre, à dire comment il aurait donc dû faire différemment. La vérité, c'est qu'on n'est pas meilleur. On est de la même nature qu'eux autres. Mais ça ne se manifeste pas toujours nécessairement de la même manière. Mais Seigneur, aide-nous à nous voir dans le miroir de ta parole. Seigneur, tu te révèles à nous et aussi tu nous révèles nous qui nous sommes. Mais merci que, comme on le voit dans cette histoire, même les mauvais côtés, même ce qui n'est pas beau à voir, Seigneur, tu le transformes en bien. Et comme ça a été prié ce matin, même des relations brisées, Seigneur, tu peux les restaurer. Merci que tu es le Dieu rédempteur, qui restaure, qui brise le vase, oui, mais tu es le potier qui en refait un mieux, glorieux, pour toi, qui te célèbre, Seigneur. C'est ce qu'on est entre tes mains, tes enfants. S'il y en a encore qui ne sont pas sauvés, qui ne te connaissent pas, qu'aujourd'hui, les paroles de vie qui sont là devant nous, qui vont être partagées, qui puissent atteindre le cœur de ceux qui sont encore morts dans leur offense et leur péché et qui viennent à Jésus pour avoir la vie. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Et oui, la fin du verset 2 que ça dit, Abraham écouta la voix de Sarai. On pourrait dire, ah, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Dieu qui avait promis, hein, je vous lis juste le chapitre 15, verset 4. Dieu qui avait dit, alors la parole de l'Éternel, hein, c'est Dieu qui parlait, lui fut adressé ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, Eliezer, son serviteur, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. On peut dire, il a écouté la voix de sa femme, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Mais quelqu'un pourrait dire, tu sais, des fois on lit quelque chose, il y a des « mais » qui surgissent dans notre esprit. Oui, mais on pourrait dire que Dieu n'a pas été spécifique de dire, ça va être par Sarah, ta femme. Puis, c'est vrai, la spécification, ça allait vraiment être de Sarah, ça vient dans le chapitre 18 qui est après. Donc, on peut dire que ce n'était pas mentionné clairement. Ça lui donne quand même une excuse. OK, c'est vrai. Mais justement, ça nous ramène là où on a été la semaine dernière dans le jardin. Où, dans le dernier message, c'est là qu'on a considéré des choses et que j'aimerais retourner à ce fameux jardin, ces deux arbres. Et on va regarder plus en détail, plus en profondeur, la dynamique spirituelle de ce qu'on voit ici. À la lumière de ce qu'on a déjà vu, on va bâtir pour aller plus loin. Donc, juste pour d'emblée, là, vous donner quelques petites remarques d'introduction. Vous savez que Dieu nous a créés pour le choisir. Parce que quand il y avait deux arbres, c'était plus que juste choisir entre deux arbres, c'était choisir entre Dieu puis rejeter Dieu. Le choix de l'arbre, la connaissance du bien puis du mal, c'était se détourner de Dieu lui-même, de Dieu sa vie, parce que Dieu nous a créés pour le choisir. Et l'arbre de vie, c'est quoi? Dans le jardin, il y avait l'arbre de vie qui donnait son fruit comme ça, et cet accès a été fermé. Et Jésus, en allant sur la croix, en allant sur le bois infâme, c'est le nouvel arbre de vie. Parce que du calvaire jaillit la vie. Christ a réouvert le chemin qui avait été fermé. Et donc, Christ est l'arbre de vie. Jésus a dit, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elle ait en abondance. Il est celui qui donne la vie. » Et on apprend aussi, il dit, je vous lis Jean 5, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. » Les Écritures rendent témoignage du Dieu vivant et nous amènent à nous confier dans le Dieu vivant. Et pour ceux qui connaissent ce Dieu vivant par Jésus-Christ et qui demeurent en lui, ils portent le fruit de sa vie. C'est ce qu'on apprend dans Jean 15. Maintenant, il y a l'autre arbre de la connaissance du bien et du mal. On a dit la semaine dernière qu'on peut, accoutumer ça à un système de valeurs, selon le bien et le mal. Et Dieu a fait une promesse avec cet arbre-là, que prendre de ce fruit allait certainement donner la mort. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Alors, le choix est clair, entre les deux arbres, c'est la vie ou la mort. Parce que de un provient la vie, de l'autre, la mort. Et dans le fond, face à ces deux arbres, Adam et Ève avaient le choix de continuer une vie de dépendance à Dieu, parce que c'est ce qu'il y avait. Ils étaient complètement dépendants de Dieu. Tout était beau, là. Ils étaient dans le paradis terrestre. Tout était bon et bien. Ou, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils avaient le choix de vivre de façon indépendante de Dieu. Tu vas connaître le bien et le mal. Tu vas être capable de toi-même départager. C'est ça l'idée du système de valeurs. Je vais m'arranger moi-même pour déterminer. Puis après que Satan les ait trompés, on connaît l'histoire, en leur faisant croire que Dieu leur cachait quelque chose ou quelque chose dans le genre, ou que Dieu les empêchait là, vraiment de découvrir la vraie vie, alors que la vraie vie, ils l'avaient déjà, tout ce qu'ils ont eu, c'était du mauvais. Ce qui est sorti du choix de l'arbre de la connaissance, c'est rien de bon, parce que tout le bon, ils l'avaient déjà. Et là, ils sont devenus conscients du bien et du mal, Adam et Ève. Sont passés de l'innocence à la conscience, bien désormais, ils se sont mis à vivre selon ce système de valeurs, selon le bien et le mal. Et vous rappelez-vous, la semaine passée, je disais, on n'a pas été créé initialement pour vivre selon le bien et le mal, mais selon la vie et la mort. Et donc, je veux qu'on continue d'aller dans ce sens-là. Le plan de Dieu que lui voulait, c'est que lui soit la source de la vie. Que lui soit la source de tout ce qui est bon dans notre vie. Mais on a rejeté ça en voulant vivre avec notre source de façon indépendante. On a court-circuité. Et donc, aujourd'hui, on va considérer Dieu la source de gloire au-delà de la peur. Dieu nous avait créé pour sa gloire. Le péché, hein, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Vous rappelez-vous, on avait vu ça, comment... Nous, on voit ça, le péché, c'est le jugement. Oui, il y a cet aspect-là, mais aussi, c'est qu'on passe à côté du but initial de Dieu. Le péché nous fait manquer le but créateur de Dieu avec nous, c'est-à-dire vivre pour sa gloire. Ça nous prive de sa gloire. Et la rédemption, c'est ça, c'est nous ramener à cette gloire. Et dans ce sens-là, Dieu, source de gloire, au-delà de la peur, j'aimerais qu'on considère le récit de Genèse 16, bon, puis toutes les suites qui vont avec, là, mais un peu à la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière, mais en ajoutant le facteur de la peur. Puis il y a toutes sortes de ramifications là-dedans, parce que vous savez, c'est quoi l'une des premières choses qui est venue quand le péché est rentré dans le monde? La peur. Ils sont allés se cacher, ils ont dit on avait peur, hein, Genèse 3:10. C'est un produit de la chute, la peur. Et comment, comme toujours... Oui, il y a un problème, mais Jésus est toujours la solution à cette impasse. Je vous donne plusieurs éléments d'introduction parce que je fais des liens avec ce qu'on a vu la semaine passée pour nous amener plus loin. Donc, un autre remarque que j'aimerais vous amener ce matin. Un chrétien possède la vie. Un chrétien, c'est pas juste quelqu'un qui a un ticket pour le ciel, pour la vie éternelle là-bas au loin. C'est quelqu'un qui a la vie éternelle actuelle maintenant. Il y a une nouvelle qualité de vie. Il est passé de la mort à la vie. OK? Donc, un chrétien a la vie de Christ en lui. Et lorsqu'on demeure en lui, lorsqu'on demeure en Christ, dans cette vie, ben, cette vie produit du fruit. Elle coule. Parce que, pour prendre une image que Jésus a pris lui-même, c'est comme un arbre avec la racine nourricière, la sève s'en va, puis la branche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte le fruit. Puis, demeurer en lui, c'est simplement ça. Être cette branche qui porte le fruit de la vie de Dieu en nous. Et ça, cette vie-là, ce fruit-là, c'est saint, c'est juste, c'est bon. Je vous le dis avec des versets à l'appui. Mais le fruit de l'esprit, ok, lorsqu'on produit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça que ça produit la vie de Christ en nous. Mais, l'autre côté de la médaille, si on ne comprend pas, si on ne croit pas et si on ne vit pas à la lumière de ces vérités, puis ça, on va voir ça après-midi, j'ai pris le mot comprendre, croire et vivre, on va voir ça dans Romains 6 l'après-midi. Si on ne vit pas à la lumière de ces vérités, de ce que nous sommes en Christ, notre vie entière, même si on est un chrétien, va être caractérisée par ce désir, voire obsession, de trouver le bien, de ne pas faire le mal, puis là, tout en fonction du bien puis du mal, le système de valeurs. Parce que lorsque on demeure en Jésus-Christ par la foi, on produit du fruit, mais lorsque on marche par la vue, lorsque on vit de façon indépendante de Dieu en voulant nous-mêmes déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, puis avec la parole de Dieu, vous allez voir, il y a beaucoup de tromperies chrétiennes là-dedans, mais par défaut, on ne marche pas par la foi, on marche par la chair. Et la chair, c'est quoi? On a parlé hier au déjeuner des hommes. La chair, c'est les façons. J'ai mes façons typiques, j'ai des façons qui me sont propres, il y a des façons humaines qui sont, ok? On le voit là-dedans, il y a des raisonnements et tout ça. La chair, c'est la façon que moi, je m'organise pour me sortir des problèmes, me sortir de tout ce qui va avec la vie ici humaine, ça ne marche pas très, très bien. N'as-tu qu'à remarquer? C'est pas très idéal. Ben, la chair, c'est ma façon à moi sur mesure, selon comment moi je détermine le bien et le mal pour, on dit, pour essayer de m'en sortir. Ou, si vous voulez prendre une expression peut-être qui est plus familière, c'est mes mécanismes de défense pour faire face à la vie. Quelqu'un me fait du mal, ben, ma chair a une façon de réagir. Il y en a qui fuit, il y en a qui explose, il y en a qui implose, il y a toutes sortes de façons, ok? Ça, c'est la chair. Puis, on a tous une chair, mais elle ne s'exprime pas toutes de la même manière, comme on a différentes personnalités. Mais, voyez-vous comment ça, ces différentes manifestations, on prend encore l'exemple, il y a un problème, quelqu'un m'a offensé, tout ça. La façon que je réagis, ben, si je réagis par la chair, je réagis indépendamment de Dieu. Puis le fruit, c'est pas la joie, l'amour, la paix, la maîtrise de soi. C'est les œuvres de la chair. C'est la mort. Ça me sépare des autres. Ça me rapproche pas. La vie rapproche, se reproduit, mais la mort sépare. OK? Ça, c'est bien important à comprendre. Puis à la lumière de ça, écoutez bien. À chaque fois que je fais quelque chose par moi-même, de façon indépendante de Dieu, c'est un péché. Puis prenez le temps de penser à celle-là parce que on dit ben non. Dire j'ai vraiment j'ai cherché Dieu, j'ai voulu faire le mieux puis tout ça, mais souvent c'est une façon de se dire non, j'ai pas voulu attendre Dieu jusqu'au bout. Puis je trouvais que ça prenait trop de temps puis j'ai fini par agir par moi-même. Exactement comme on voit ici. Il y avait une promesse. Puis la réponse, elle venait pas aussi vite qu'ils voulaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont péché avec plein de bonne volonté, avec plein de bonnes raisons. C'est ça que je veux dire. Ils ont agi par la chair, parce qu'ils ont agi de façon indépendante de Dieu. Voyez-vous comment ça nous illustre très bien ce dont je veux parler aujourd'hui. Puis ça nous donne aussi une autre compréhension de ce fameux verset, connaissez-vous? Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction ou par foi. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, de la foi, est un péché. Donc, tout ce qui n'est pas le produit de répondre à ce que Dieu fait, de dépendre de Dieu, tout ce qui est fait de façon indépendante, c'est un péché. Puis la conviction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'amène toujours à dépendre de Dieu. Mais des fois, c'est long. Des fois, c'est pas comme j'aurais voulu. Il faut s'attendre à Dieu. C'est pas la façon humaine naturelle. On parle pas ici de ce qui est la tendance humaine naturelle. Ça s'apprend. C'est unique à la foi biblique chrétienne. Parce que faut s'attendre au Dieu invisible. Avec les religions, on a toutes sortes de systèmes de valeurs. Puis là, ben là, selon telle religion, tu vas faire telle affaire. Hein, puis, OK? C'est correct. Là, on a tout à figurer ça. Qui je pense que tu es un angliciste. On s'est tout arrangé pour. Mais on agit de façon indépendante de Dieu. Ah, c'est bien. Puis, ah, comme je disais, ah, on a passé d'une branche de l'arbre de la connaissance. Puis, whoop, on a monté. On s'est amélioré. On est dans une autre branche maintenant, mais on est toujours dans le même arbre. On n'est pas dans la vie, on est dans la mort qui paraît bien, dans la mort qui essaye de s'améliorer. Je vous dis, si vous n'avez pas écouté le message de la semaine passée, peut-être que vous allez avoir un peu de misère à tout mettre ça ensemble, mais vous pourrez prendre le temps de le réécouter, ça va vous aider. Donc, si je ne demeure pas en Jésus-Christ, le péché manifeste de ce qu'on voit là. Le criage, le poignage de nerfs, la grosse inquiétude qui nous donne de l'urticaire, c'est pas la racine du problème, c'est le symptôme. La racine du problème, c'est mon indépendance à Dieu. Ça, c'est le péché qui est en dessous. Les deux, c'est du péché, mais l'un qui est évident, qui se manifeste, puis l'autre, il est en dessous, il est moins évident. Je vis dans l'indépendance de Dieu. C'est pour ça que, fondamentalement, les deux péchés fondamentaux, c'est l'orgueil et l'incrédulité. Parce que c'est par orgueil et incrédulité qu'on vit de façon indépendante de Dieu. Parce que pour vivre indépendamment de Dieu, il faut dire, ben moi j'ai une bonne façon, puis elle marche bien ma façon, puis ça c'est de l'orgueil. Puis c'est pour croire que Dieu, sa façon est mieux. C'est de l'incrédulité. Comprenez-vous? Maintenant, donc indépendamment de Dieu. Et pourquoi qu'on arrive à vivre de façon indépendante de Dieu? Parce qu'on s'appuie sur un système de valeurs et non pas sur celui qui donne la valeur à tout ce qui touche. Lorsque je connais Dieu, je n'ai pas à me casser la tête à savoir c'est quoi qui est bien et qui n'est pas bien. Parce que quand je suis en communion avec lui, que je demeure en lui, lui, il me dirige. Voyez-vous, c'est une question de dépendance. C'est pas une question, hey, j'ai plus de bien et de mal dans ma vie. Non, la question, c'est-tu moi qui veux le déterminer ou si je dépends de celui qui va me diriger loin du mal et dans le bien. C'est une question de dépendance. C'est pas une question de dire ah là, je suis un chrétien, j'ai plus à me soucier de la question du bien puis du mal en tant que tel. Non, mais de qui je dépends pour le déterminer, c'est ça la question. Et donc, si je me dirige selon un système de valeurs de bien de mal, je m'empêche d'aller vers celui qui est toujours bon, avec qui c'est toujours bien. Et c'est précisément ce qui arrive ici. Avec ce couple qu'on aime tant et qui font partie de la merveilleuse histoire de la rédemption. Je dirais qu'ici, il était, écoutez bien, 90% dépendant de Dieu. Puis là, on pourrait mettre peut-être un autre pourcentage, là, mais c'est ça la tromperie, c'est qu'il n'était pas totalement, ils n'ont pas dit, ah là, on fait ce qu'on veut, puis tant pis pour les promesses de Dieu. Non, non, tu sais, il était vraiment, il se souciait de la promesse de Dieu. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est parce que dans leur tête, ça trottait cette fameuse promesse-là de la postérité qui était promise, OK? Donc, il y avait une dépendance à Dieu. C'était partiel. Il y avait un semblant, une apparence de foi, de dépendance à Dieu parce qu'il voulait s'attacher à sa promesse, à son plan. Mais comprenez bien qu'ils agissaient de façon 100% indépendante de Dieu par rapport à son exécution. C'est là qu'on se plante. « Ah Seigneur, je veux faire ta volonté, puis vraiment j'y prends plaisir, puis tes promesses. » Mais c'est quand c'est le temps d'agir, c'est quand c'est le temps de l'accomplissement. C'est là qu'on tombe dans le piège avec des bons raisonnements. Ben là, sûrement, tu sais, moi, je suis plus en âge, puis là, si, puis ben là, la servante, c'est la coutume de l'époque. Je veux dire, c'était pas scandaleux pour eux à l'époque, là. C'était commun, là, comme pratique, là. Ben, on va faire ça, puis. OK? Fait qu'ils étaient indépendants de Dieu par rapport à l'exécution. Ils n'ont pas attendu. C'est là qu'on a de la misère comme humain. On a de la misère à attendre. OK, on croit que, bon, en Christ, on est mort au péché, vivant pour Dieu, puis la vie de Christ agit en nous, mais le bout qu'on a de la misère, c'est le tombeau, c'est l'attente. C'est quand il ne se passe rien. C'est là qu'on a le goût de donner un petit coup de main à Dieu. C'est ça qui est arrivé ici. Et ce que je veux souligner pour le reste du message, c'était une longue introduction, la moitié du message est pas mal passée. C'est juste deux points. Mais c'est comment la peur rentre dans cette dynamique spirituelle des raisonnements de la chair, de ce qui court-circuite ici l'exécution du plan de Dieu. Puis on sait finalement, le plan de Dieu s'est accompli pareil, mais il y a eu cet accrochage, si vous voulez. Donc j'aimerais qu'on regarde d'abord, ici avec l'histoire qu'on a sous les yeux, la dynamique individuelle de la peur. Puis on pourrait dire peur, mort, foi, vie. Dans notre vie, là, si on agit selon la peur, ça nous amène à la mort. Quand on agit par la foi, en dépit de la peur, ça va donner la vie. Donc, on va commencer la dynamique individuelle de ça. Okay? Dans Genèse 1, ici, on a une puissante illustration de ce que Romains 8:8 dit. Ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ils ont beau avoir les meilleures intentions du monde, ça ne peut pas plaire à Dieu. Parce que c'était la chair. Puis dire, ah, ben, il n'était pas si charnel. Oui, parce que c'était leur raisonnement. Prétend vous l'expliquer, là, c'était indépendant de Dieu. Même si ça faisait du sens, c'était eux qui étaient à l'origine et non pas Dieu. La réalité, comme ça dit dans Hébreux, c'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Et ce, je dirais, malgré les bonnes intentions, et je dirais même, surtout lorsqu'on est plein de bonnes intentions, c'est encore pire dans ce temps-là. Parce que c'est là qu'on est plus sujet de tomber dans une situation comme celle-ci. Pourquoi ici c'était comme ça? Pourquoi il y avait ce problème-là? Parce que la source de ce qu'il faisait provenait du mauvais arbre, provenait d'un système de valeurs basé sur le bien et le mal. Et ça ne pouvait pas porter du bon fruit. Parce que c'était indépendant de l'arbre de vie, de la vie de Dieu. Et écoutez bien là-dessus, aucun chrétien qui se concentre sur soi, sur ce que lui veut, elle veut, et comment régler ses problèmes, ne peut arriver à quelque chose. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Il y a un problème, puis là, la peur nous poigne. La peur nous poigne, mais qu'est-ce qui va arriver? Eh bien là, si ça, ça arrive, puis là, on part dans les « mais si », puis toute l'hypothétique, là, le monde imaginaire de peut-être que ça va arriver, puis si ça, ça l'arrive, puis OK? C'est la nature humaine, on est de même. OK? On s'imagine que ça fait comme ça, fait que là la peur nous poigne, fait que là, le moi en bas, il faut que je fasse quelque chose. On peut pas laisser aller ça. Non, voyez-vous, c'est grave, là, on dit, mais non, on peut pas laisser aller ça comme ça. Mais si un chrétien bâtit sa vie comme ça sur la peur d'être sûr de faire le bien ou d'être sûr de ne pas faire le mal, ben, il est tout dans la dynamique de Romains 7. OK? Puis là, je vous cite Romains 7, le passage en particulier. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Voyez-vous, il est pas dans une dynamique bien-mal, j'essaie, puis je veux, puis... C'est la tragédie de quelqu'un qui vit dans l'indépendance de bâtir sa vie sur ce système de valeurs, d'essayer de dire « Non, je veux faire le bien, je veux pas faire le mal. » Puis on est pris là-dedans. Et je l'ai souligné la semaine dernière, c'est quoi la différence entre un chrétien qui pense de même puis un non-chrétien qui a une morale. Tu sais, dans les religions, il y a de la morale. Même les non-sauvés, là, athées puis tout ça, tu sais... À cause de la conscience qu'ils ont, ils voient bien que tuer, c'est pas bien, malgré que la conscience peut s'endurcir, parce que tuer un bébé, ça dérange moins, ça a l'air que quelqu'un qui... Mais bon, il y a quand même une conscience, mais... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent vivre selon la règle d'or, ou selon les 10 commandements. Vous savez, c'est quoi ça? C'est quoi la voie de ça? C'est vivre pour s'assurer de la condamnation, parce que la règle d'or, les 10 commandements, ça nous montre comment on l'a pas pantoute. Fait que quand il veut vivre selon ça, ça va pas être la voie pour grandir, ça va être la voie pour mourir. Parce que c'est le mauvais arbre. Et donc, comme les inconvertis sont esclaves parce qu'ils sont attachés à la même racine, du même arbre, par la peur, Il marche par la peur, non par la foi. Il marche par le moi, non par Jésus-Christ. Il marche par l'indépendance, non la dépendance de la soumission à Dieu. Et là-dessus, j'ai quelque chose pour la réflexion. Ça fait longtemps que j'y pense, mais ce qu'on voit là, ça m'amène... Puis on va en parler plus à l'Assemblée générale annuelle, mais c'est pour ça que je veux reconsidérer la pertinence et la validité de l'alliance de notre Église comme étant un code moral chrétien. Parce qu'honnêtement, je pense que c'est basé sur exactement ce qu'on parle, sur la peur de ben, comment les gens vont virer. Comment, tu sais, faut se protéger du danger, du mal, faut s'assurer de marcher dans le bien. Et non pas c'est basé sur la foi de « si l'Esprit de Dieu est en nous, la loi de l'Esprit de vie nous affranchit de la loi du péché puis de la mort. » Pour ça que je reconsidère vraiment ça, on en reparlera, puis je veux qu'on regarde ça ensemble, mais pourquoi pas que le questionnement devrait être plutôt de se joindre à la vie de notre Église. Donc, au lieu de le considérer en termes de bien et de mal, de vie et de mort, veux-tu contribuer à la vie de l'Église? Puis, c'est-tu quoi? Si on veut contribuer à la vie de l'Église, il faut demeurer en celui qui est vivant, en celui qui est notre vie. Puis, ça va pas mal départager beaucoup de bien et de mal. Je pense, pour le dire encore plus clairement, en mettant comme ça... Une alliance qui est basée sur le bien et le mal, c'est pratiquement s'assurer de la mort perpétuelle de l'Église. Parce qu'on se met dans ce carcan-là de Romains 7. On se met dans « je veux faire le bien », puis comprenez-vous, on est dans Romains 7, on n'est pas dans Romains 8. On y reviendra, c'est une illustration, mais juste pour amener ce point-là, la grande majorité des conflits chrétiens, des problèmes entre chrétiens, entre Églises, c'est par rapport au bien puis au mal. Puis, aussi, très souvent, c'est propulsé, motivé par la peur. D'être sûr de faire le bon choix. D'être sûr de ne pas avoir de problème, de ne pas faire ce qui va déplaire à Dieu. Bonne motivation, mauvaise source. Parce qu'on peut faire tout ça de façon indépendante. Est-ce que le fruit de nos églises qui ont eu cette pensée-là vivent de façon dépendante à Dieu et produisent du fruit? On reconnaît un arbre à ses fruits. Je vous dis, c'est matière à réflexion, mais je pense qu'on doit réfléchir là-dessus devant le Seigneur. Parce que cette pensée passe à côté de la marque. Parce qu'elle ne pose pas la bonne question. La question dans la vie chrétienne, c'est pas en fonction du bien puis du mal, mais est-ce que ça produit la vie ou ça produit la mort? Parce que la vie de Dieu ne produit que du bien. C'est pour ça qu'on n'a pas à se casser la tête. Si j'ai la vie... Ça va produire. Est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'on croit que si on demeure? Est-ce qu'on croit que si on est rempli de l'esprit, ça ne va donner que du bien? C'est pour ça que la question, c'est pas bien ou mal. Ça, c'est le fardeau sur mes épaules. Vie ou mort, si je choisis la vie, comme ça dit dans Deutéronome, le bien va en sortir. Est-ce qu'on croit ça ou est-ce que nous, on met sur nos épaules puis sur les autres? Ben là, il faut que tu t'assures de faire le bien puis le mal. Ça change absolument tout. C'est un changement de paradigme. De voir en fonction du bien puis du mal versus de la vie puis de la mort. Si dans mes relations, je vous ai déjà dit, si dans mes relations je suis basé sur la loi, le bien, le mal, un système de valeurs, j'amène la mort. Parce que les autres sont jamais corrects, puis moi non plus je suis jamais correct, là je veux leur plaire, puis je les ai fait assez pour plaire. Ça ne produit que la mort. Tandis qu'en fonction de la vie, quand on est basé en fonction de la vie, c'est la croix. Qu'est-ce qu'a fait la croix devant nous autres? La croix, c'est la restauration, c'est l'espoir. C'est là où il y a du péché. Oui, il y a des problèmes, parce que vivre selon la croix, c'est pas fermer nos yeux sur le péché. C'est voir au-delà du péché, c'est voir la grâce qui est plus grande que le péché qui abonde. Mes amis, on a tellement besoin de ça. C'est littéralement une question de vie et de mort. Et je l'ai suivi la semaine passée, et je le répète encore cette semaine parce que c'est important. Je crois que avec 2020 jusqu'à maintenant, ce que le Seigneur a mis devant son Église, c'est le choix de la vie puis de la mort. Mm. Puis regardez comment c'est comme par hasard. Mm. La division s'est faite avec « Ah, mais nous, on fait ça parce que ça, c'est bien. Mm. » Puis on fait pas ça parce que c'est mal. Mm. Puis je me rends compte, je pense que malgré qu'on a voulu faire ce qui est bien et tout ça, le Seigneur nous a amené, puis je le vois par le fruit,
l'amener à choisir la vie. Parce que où qu'il nous conduit, Seigneur, est-ce qu'on vit, là? Dans la vie ou dans la mort?
La vie.
Dans la vie. Choisis la vie. Puis là, on n'est pas parvenu, il ne faut pas se péter les bretelles, puis on n'est pas meilleur que personne, mais je veux vous faire voir ce que le Seigneur est en train de faire. Il met devant nous la vie puis la mort. Puis la mort, c'est pas avec des grosses affaires qui ont donc de l'air. La mort, là, ça peut être par plein de bonnes intentions, plein de bonnes choses, plein de bons raisonnements, plein de bonnes choses pour vouloir aider Dieu. Pensez-y, les choix que je fais dans ma vie. Un chrétien, la fameuse question de la liberté chrétienne. Un chrétien, ça peut-tu faire ça? Ça peut-tu pas faire ça? Si je considère ces questions à la lumière du bien puis du mal, ben là, forcément, moi, je vais être bien, les autres vont être mal, ou, OK, il va y avoir toute cette dynamique-là. Mais si je le considère en termes de vie et de mort, la vie et la mort que ça produit, est-ce que ça nous rapproche? Est-ce que ça produit la vie? Premièrement, ça change ma perspective. Savez-vous quoi? Au lieu de voir l'autre comme, tu sais, l'autre église qui n'est pas rendue là, puis au lieu de les condamner comme ils font mal, ben, je peux les voir comme des gens pour qui il faut prier parce que sont dans la mort, puis ont besoin de la vie. Pis c'est ce que je vois maintenant à travers ce qu'on a vécu, je me rends compte. Mon ami, c'est triste la situation de l'Église de Jésus-Christ parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de morts avec des gens qui aiment le Seigneur, qui sont bien intentionnés, mais qui sont trompés, comme avec, dès le début, l'art de la connaissance puis du mal, c'est une tromperie. C'est, si t'as ça, tu vas avoir une belle vie. Ça promet la vie, mais ça donne la mort. Pourquoi? Parce que c'est indépendant de Dieu, la source de toute chose. Puis c'est au-delà de la peur. Parce que qu'est-ce qui nous amène à choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est la peur. On a peur de faire confiance à Dieu. On a peur de dire, non, si je choisis la vie, ça va tout être correct. Parce que le Seigneur va diriger. Il va s'occuper. T'es pas un rang, ça.
Amen.
Parce qu'on est habitué, nous, de prendre les choses en main. Donc, la peur ne va qu'augmenter dans nos vies si on est préoccupé, puis voire même ça peut aller jusqu'à l'obsession, d'être sûr de faire le bien et de ne pas faire le mal. Parce que, savez-vous quoi? On ne sera jamais certain parce que le moi est le centre de décision. C'est ça le problème. J'agis de façon indépendante de Dieu. Mais Dieu, lorsqu'il est notre référence, notre source, celui à qui on se soumet, ça chasse la peur mortelle. Pourquoi? Parce que sa vie expulse la peur et nous rassure. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi, m'a libéré. La vie me libère de la loi du péché puis de la mort. Parce que lui, comprenons-le, Dieu n'est que bon. N'est que bien. Est-ce qu'on croit ça, là? Aujourd'hui, c'est ça mon gros message. Est-ce qu'on croit que choisir la vie, c'est safe? Est-ce qu'on croit que choisir Dieu, dépendre de lui, puis faire confiance que c'est ce que les autres ont besoin dans nos relations, on arrive là-dedans dans un point, mais pour moi, personnellement, dans la dynamique individuelle, est-ce que je crois, est-ce que je suis convaincu que vivre la vie selon la vie puis la mort, c'est la voie, parce que si je choisis la vie, le bien est là automatiquement. C'est par défaut. Pensez-y, c'était comme ça dans le jardin. Donc, petite dernière pensée là-dessus, sur individuellement. Après ça, on va aller dans le relationnel pour conclure, parce que c'est presque fini. Mais la peur dit, on va écouter ce que la peur et la foi disent. La peur dit, oui, mais si c'est pas comme je pense, si c'est pas comme je veux. Hein? C'est comme ça qu'on parle. C'est ça qu'il pensait ici. Oui, mais si! On attend tellement, puis finalement, on n'a pas d'enfant, mais ça ne va plus marcher, il n'y aura plus de plan de Dieu. C'était oui, mais si, ça ne marche pas comme je pense, ça ne marche pas comme je veux. Mais qu'est-ce que la foi dit? Écoutez bien. Peu importe ce que je pense, puis ce que je veux, ma vie, ma sécurité est dans ce que Dieu pense, puis ce que Dieu veut. Voyez-vous comment la foi et la peur ne parlent pas de la même manière? Maintenant, je termine avec la dynamique relationnelle de tout ça. De
la foi, la vie, la peur, la mort. La Bible nous dit que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Puis que ceux qui étaient dans le désert, ils ont entendu la même parole que nous en annoncé, mais ça ne leur a rien servi parce qu'ils ne trouvaient pas point de foi chez ceux qui l'entendirent. Pensez au nombre de fois que Jésus a dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » La peur exclut la foi. Ou combien, de façon positive, on voit la foi conquérante d'un David devant Goliath, d'un Daniel dans la fosse aux lions, Shadrach, Meshach et Abednego, Ruth, contre vents et marées, cette foi a conquéri. Pourquoi? Parce que la foi choisit la vie. La relation de foi que nous avons avec Dieu, c'est ça notre victoire. Puis l'amour parfait bannit la crainte. Puis cherchez pas dans votre amour. Notre amour est très vacillant. Mais l'amour de Dieu est parfait. On doit demander à Dieu qu'il nous révèle la grandeur de son amour. Et lorsque notre foi dans ce Dieu d'amour, dans ce Dieu qui est totalement souverain, puis en passant, quand il nous éprouve, c'est pas tout le temps pour nous châtier. Pas tout le temps parce qu'on a fait du mal. Des fois, c'est juste parce qu'il nous aime, puis il sait que c'est ça qu'on a besoin. Pense, ça vient de la pensée, justement, ah, j'ai fait de quoi de mal, fait que Dieu me fait en conséquence. Pas nécessairement. Qu'est-ce que Job avait fait de mal en tant que tel? Bon, il avait de la justice propre dans son cœur, puis tout ça, puis c'est pas qu'il était parfait. Mais je veux dire, c'est pas comme si un expliquait directement à l'autre. Là. Alors, Dieu avait décidé de faire ça avec son serviteur. Puis il peut faire ça aussi avec nous autres. Donc on voit que le châtiment, c'est pas nécessairement, que l'épreuve, c'est pas nécessairement un châtiment, ça peut être simplement Dieu qui, dans son amour, veut former Christ en nous, veut former la dépendance envers lui. Et si ma relation avec Dieu est importante, pourquoi elle l'est? Parce que elle détermine toutes mes autres relations. Autrement dit, si ma relation avec Dieu est dans la peur, je vais transmettre ça aux gens autour de moi. Si ma relation de Dieu avec Dieu est dans la foi, je vais aussi transmettre ça aux autres. Je vous donne trois exemples dans le couple, comme ici dans Genèse, dans le jardin. Souvent, une tendance qu'on voit très souvent, je vous dis avec plusieurs années d'expérience, souvent, dans le couple, la femme a une espèce d'anxiété plus générale par rapport à si, plus des circonstances. L'anxiété, c'est plus généralisé. Puis l'homme, lui, a une peur plus spécifique, qui ne veut pas déplaire à sa femme, un peu comme dans le jardin. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Les deux agissent en conséquence. Puis ça l'affecte l'un l'autre. Les deux agissent selon la peur, pas la peur de la même affaire, mais ils agissent par la peur, puis ça l'amène toutes sortes de conséquences. Dans les relations familiales, lorsque la peur régit les relations, « Ah, je veux pas que mes enfants virent mal. Ah, mais qu'est-ce qui va arriver si, ça, si, si? » Savez-vous qu'est-ce que ça va donner comme fruit premier, souvent, l'irritation, la colère dans les relations? Pourquoi? Parce qu'on est focusé sur le bien, le mal, on ne veut pas que ça arrive, puis on est indépendant. On ne communique pas la vie à nos enfants. On leur communique la peur, et l'expression de notre peur, c'est la colère. Parce qu'on a peur que ça vire mal. C'est une question de foi. Est-ce que j'ai la foi que Dieu peut s'occuper de mes enfants? Que Dieu peut s'en occuper même mieux que moi. Dans les relations d'église, dans une église comme la nôtre, on peut avoir peur aussi que ça vire mal. Avec des personnes, on voit des choses, puis qu'est-ce qui arrive? Puis ça, c'est pas excusé de faire une église, mais on prend les choses en main. Alors, on veut pas qu'il arrive de quoi? Puis là, littéralement, on joue à Dieu, on se prend pour Dieu, on se prend pour le Saint-Esprit pour changer la personne, changer la situation. Puis qu'est-ce qui arrive dans ce moment? On arrête de s'attendre à Dieu. Je l'ai déjà dit, mais en 2022, il y a eu tellement de situations, des situations où est-ce que des fois, c'était paniquant, tu sais, c'était vraiment épeurant. Puis, s'il y a quelque chose que j'ai appris dans la dernière année, c'est quand ça arrive, que là, au secours, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, t'en as deux ou trois qui sont là, puis ils pognent le mort aux dents, parce que, hey, t'as-tu vu ce qui arrive? Puis, sont là pour t'aider à avoir peur avec toi. Ben, ce que j'ai appris, c'est, en fait, je me suis refusé d'agir selon cette peur et je me suis obligé de m'attendre à Dieu. De dire, Dieu, ça c'est trop gros là. je peux pas. C'est quoi que toi tu veux faire? Seigneur, je m'attends à toi. C'est ça le bout qui est dur, parce que là, tu as l'impression d'être là, d'être passif face à des problèmes. T'es pas passif. Tu as une foi active qui regarde à Dieu, qui s'attend à lui. Puis j'aimerais vous dire que je regrette zéro, zéro d'avoir fait ça, parce que Dieu s'est occupé d'absolument tout, puis tellement mieux. Dieu s'en est occupé de ces situations-là. Puis, savez-vous quoi? Quand on demande ça à Dieu, qu'on s'attend à lui, des fois, il va dire, OK, je veux me servir de toi là, comme ci, comme ça. Des fois, il va se servir d'un autre. C'est Dieu qui va agir, c'est Dieu qui va s'en occuper. Mais c'est ça, la foi. C'est se confier en Dieu, dépendre de lui, malgré la peur, parce que la tentation, quand on a peur, c'est d'agir indépendamment. C'est de s'en aller à l'arbre de la connaissance, bien dire, il faut faire ci, il faut faire ça, pour pas que ça arrive, puis pour pas que ça arrive. On est tous pareils. Mais ça, on l'exprime différemment. Maintenant, dans l'économie de Dieu, tout fonctionne par la foi. Est-ce qu'on n'a pas vu, il y a deux semaines, comment dans Romains 4, Abraham, tout ce qu'il a vécu, puis les promesses et tout ça, c'est par la foi. Et j'aime l'exemple de la vie d'Abraham parce que c'est un bel exemple de rédemption. Lui et sa postérité, comment s'est accompli le plan? On regarde Abraham, on regarde Isaac, on regarde Jacob et toutes les autres. Hier, on parlait de Joseph. Le plan rédempteur de Dieu s'accomplit à travers ceux qui se confient en Dieu, s'accomplit par la foi, qui se soumettent à Dieu par la foi, qui dépendent de lui. C'est tout, c'est pas pour rien que c'est des histoires intéressantes pour que, hey man, il l'a pas, puis oui, on se plante. Puis là, on rate. C'est ça qui est beau dans la Bible, c'est du monde comme nous autres qui se plante puis qui rate. Pour ça qu'il y a un Genèse 16, puis qui nous montre que c'est pas fini l'histoire. Il y a de l'espoir. Donc, oui, Abraham et Sarah ont été dirigés par la peur. Oui, ils sont allés au mauvais arbre. Ils se sont appuyés sur leur raisonnement, sur leur propre sagesse. Ils ont failli à se confier en l'Éternel de tout leur cœur. Puis ça l'a donné, oui, la mort, parce que Ismaël a donné le peuple arabe qui est un ennemi depuis le tout début du peuple d'Israël. Séparation, distance, haine a été le fruit de ça. Mais Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa patience merveilleuse, leur enseignait la foi. Puis ils l'ont appris. Parce que vous voyez la suite des choses, hein? Puis on voit le triomphe de cette foi dans Genèse 22, qui est toute qu'une image du calvaire, puis du Père qui offre le Fils. C'est ça qui est beau. C'est ça que je voudrais vous communiquer ce matin. Genèse 16, c'est pas la fin de l'histoire. Genèse 16, ça finit avec une virgule, si on peut dire ainsi. Le point, il est beaucoup plus loin. Le point de cette histoire rédemptrice termine à Jésus-Christ. Parce que tout le long, il y en a eu tellement. Je veux dire, l'histoire rédemptrice côté humain, là, tu dis, wow, Dieu, c'est vraiment malgré nous. Là. C'est vraiment malgré nous. Mais savez-vous quoi? Pour Abraham et Sarah, c'est un passage douloureux, humiliant, mais nécessaire vers la vie. Comme pour nous chrétiens, Romains 7 est un passage douloureux, humiliant, mais nécessaire vers la vie de Romains 8, de l'Esprit. Vers la vie qui produit le bon fruit de l'Esprit. Fait que je ne sais pas c'est quoi ce matin, comment tu relis tout ça avec ton expérience, tes choix, tes épreuves. Je ne sais pas à quel point dans ta vie tu considères les choses en fonction, c'est-tu bien ou c'est-tu mal? Ou si tu les considères, est-ce que ça m'amène à la vie ou à la mort? Moi, je veux vous dire ce matin, Dieu nous appelle à considérer la vie non avec un système de valeurs indépendant de Dieu, mais selon lui, le Dieu vivant qui est toujours bon. Pourquoi se casser la tête à vouloir départager le bien puis le mal, savoir ce qui est bien, puis lorsqu'on a Dieu, on a absolument tout ça de réglé? Ça n'aurait aucun bon sens de vouloir se casser la tête avec ça. Et c'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Puis, je termine avec cette simple parole qui vient du livre de Deutéronome. Choisis la vie. Je veux dire, c'est une question de vie ou de mort. Choisissons la vie. Puis, savez-vous quoi? Cette vie-là de Dieu, elle a une qualité morale, elle est bonne. Puis, La volonté de Dieu qui est dans cette vie, elle est bonne, agréable et parfaite. Elle porte du bon fruit. Elle n'est que amélioration, rédemption, restauration. C'est ça le choix qui est devant nous. Dieu met devant nous le choix de la vie ou de la mort. Laissons pas la peur que ça vire mal. La peur que si ça peut-être ça arrive. Laissons pas ça nous détourner du Dieu vivant. De la même façon que dans le jardin, c'était le choix du bien et du mal qui a séparé nos premiers parents de leur Dieu. C'est encore la même affaire aujourd'hui. Il faut que le Seigneur nous le grave sur le cœur, nous le rende pour voir. On n'est pas appelé à vivre selon le bien puis le mal, mais selon la vie puis la mort. Quand on a la vie, on a tout le bien qu'on a besoin. Amen?
Amen.
Seigneur, je te remercie que en toi est la vie. Et Seigneur, tu nous appelles à toi qui est la vie. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore vivant en Jésus-Christ, ils ont simplement à choisir la vie, voir qu'ils sont morts, qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Et qu'en toi est la vie, en toi est le pardon des péchés, la vie éternelle, en toi est toute l'espérance qu'on peut avoir. Seigneur, je te prie pour ton peuple, tes enfants qui sont ici. Ouvre nos yeux sur qui tu es. Tu es le Dieu vivant, et quand on demeure en toi, et que tes paroles demeurent en nous, on peut demander n'importe quoi, et ça va nous être accordé. Parce qu'on est dans le bien. Parce que c'est le choix de la vie, c'est le choix du bien. Seigneur, transforme notre intelligence à cette nouvelle façon de voir les choses qui est la plus ancienne. Ça nous ramène au départ. Ah, Seigneur, ouvre nos yeux sur la tromperie de l'arbre de la connaissance du bien puis du mal, la tromperie de vouloir le bien de façon indépendante de toi. Seigneur, tu es tellement bon. Et je sais que tu ne nous donnes pas juste ces choses-là pour qu'on s'en enorgueillisse, pour qu'on se pense bon avec ça, mais parce que tu nous prépares pour ce que tu as, Seigneur. Et oui, prépare-nous. Seigneur, on vient à toi humblement. Que ton peuple ici réuni réponde par la foi à ce que tu as pour chacun ici. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen.